de vous parler du Saint-Esprit, ce que je vais faire, mais le Seigneur m'a conduit à parler des femmes. Alors, c'est un sujet qui n'est pas habituel, mais voilà, vous allez comprendre un peu pourquoi. On va prier que le Seigneur conduise ce temps où nous ouvrons la parole. Père, merci. Merci parce que, Seigneur, tu nous as laissé ta parole. Tu ne nous as pas laissé orphelins, tu nous as laissé ton esprit et ta parole. Et Seigneur, nous voulons être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Te demandons d'ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour t'entendre. Amen. Amen. Voilà, je ne vais pas relire l'ensemble du passage que Rémi, d'ailleurs, a très bien lu hier, merci, au mariage. Mais en fait, c'est de ce passage qu'il s'agit, et je voudrais juste lire le verset 32 du chapitre 5, où il est dit que ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Dans le développement du mariage, concernant le mariage dont il est question ici, verset 22, on retient quelque chose qui peut être choquant, qui dit que la femme soyez soumise chacune à votre mari comme au Seigneur. Pourquoi ça peut être choquant? À cause de ce que les hommes ont fait de ce verset. Ils ont utilisé ce verset pour dominer la femme. Et c'est ça qui a poussé le féminisme, le courant féministe, à réagir contre ce courant. Et vous savez, quand on réagit, on n'est jamais dans l'action, on est dans la réaction. Donc on est toujours dans l'excès, parce qu'on réagit. Mais bon, les hommes ont, pendant des siècles, tellement utilisé ce motif, comme d'ailleurs le racisme, qui s'appuie sur des versets du style dans l'Ancien Testament où Noé a maudit le fameux fils Cham. Et donc on appuie le racisme là-dessus, sur le fait que Cham était maudit et que c'est la race noire. Voilà. Tout ça, c'est des justificatifs spiritualistes qui sont des abus de la Bible. Et ça fait du tort au christianisme. Ça fait du tort à la Bible, ça fait du tort à Dieu. Et l'abus de ce verset, « Femme, soyez soumise », ça fait du tort à Dieu. Et ça a amené le courant féministe, le courant réactionnaire qu'on connaît. La cause, c'est ce que l'appellerait l'Église de multitude. Vous savez dans quel courant vous êtes en tant qu'évangélique, que nous sommes, parce que je suis avec vous, dans ce courant. À quoi appartenons-nous comme courant chrétien? Voilà. Alors, bon, c'est un peu difficile comme question, parce qu'elle est très ouverte. Pardon? Protestant, déjà. Évangélique, puisque c'est marqué devant, protestant évangélique, voilà, pardon. Issu de la réforme, voilà, ça c'est notre identité. Est-ce qu'on peut rajouter à cela? Pardon? J'entends pas. Puritanisme? Ah non, surtout pas. Pas rien à voir avec le puritanisme, non. Alors c'est un mauvais courant, ça. Un courant anglais qui était très puritain, qui était légaliste au niveau de la morale. On veut pas être ça. Non, mais... Charismatique, oui. 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 Alors je... Ah. C'était la réponse que j'attendais. Je me suis dit, tiens, personne n'a trouvé. Si, Ruben. On est dans le courant des églises de confessants. On confesse Jésus-Christ. Et c'est étonnant parce que Michel Lacot, qui était un ami et prêtre de la paroisse ici de Vergenville, qui était quelqu'un né de nouveau, on a fait un échange de chair, j'ai prêché à la messe, lui il est venu ici un mercredi soir, et il a prêché, elle a sorti Michel, qui s'appelle Michel aussi, elle a dit, mais Michel, on aurait pu te jeter des pierres. tu as prêché comme Luther. Il a dit, personne ne m'a jeté les pierres, parce que c'est pas Rosien qui était là, il a dit, on n'a jamais entendu prêcher comme ça. Voilà. Il a prêché comme Luther, salut par la foi, etc. etc. Voilà. Et c'était un homme, voilà, vraiment près du Seigneur. Et quand je suis allé là-bas, il a dit, moi j'ai que des confessants dans mon église. Vous voyez, il a bien intégré la différence entre les gens qui viennent de la multitude et les confessants. Quand j'avais prêché avec Philippe Potier au Val-Fouré, ça me rappelait des souvenirs de 50 ans en arrière, quand j'étais enfant de cœur, moi, dans l'église catholique, où, à la fin de la messe, vers midi moins 10, vous voyez, parce qu'à midi c'était fini, c'était réglé comme du papier à musique, à midi c'était fini, midi moins 10, l'église se remplissait au moins un tiers, ou même la moitié des fois, des hommes. Il n'y a que des hommes qui rentraient, voilà. Et puis qui restait debout, parce que voilà, 10 minutes, c'est pas très long. Et puis il partait. Et où est-ce qu'il partait après? Il partait dans tous les cafés autour. Ils étaient remplis, voilà. Ils jouaient aux cartes, machin, etc. Pendant que la femme, qui était, elle, à la messe depuis beaucoup plus longtemps, elle rentrait, faisait la popote, et puis il rentrait, mettait les pieds sur la table, et voilà. Vous voyez, la conception de l'homme machiste, voilà, qui veut juste la bénédiction. Il venait pour la bénédiction. Et là, j'ai vu. Au Val-Fouré, pareil. C'était un remake. 10 minutes avant, je vois toute l'église qui se remplit. Et puis en fait, ils veulent juste la bénédiction. Ils veulent être bénis. Ça, ça s'appelle de la superstition. C'est la superstition chrétienne. C'est tout. C'est pas du christianisme. C'est pas une foi. C'est je veux être béni. Voilà. Je veux pas me mettre en porte-à-faux avec Dieu, tout ça. Voilà. Et ça, c'est les églises de multitude. Tout le monde. Chez moi, quand j'étais jeune, il y avait 1000 personnes dans l'église, qui contenaient 1000 personnes, et c'était rempli tous les dimanches. Et en mai 68, quand il y a eu la libéralisation et Vatican II et tout ça, là, j'y suis allé pour le décès de mes parents et tout. Il y a peut-être une vingtaine de personnes juste devant, avec les sœurs, qui sont, elles, consacrées au Seigneur, qui sont là. Donc voilà, plus personne. Donc ils sont où, les chrétiens, là? Est-ce qu'ils venaient pour la foi en Dieu ou est-ce qu'ils venaient pour chercher la bénédiction? Chercher l'erreur, c'est évident. Okay. Et nous, on risque de faire la même chose parce que la chair, c'est la chair. Quand on marche dans la chair, eh bien, les fruits sont les fruits de la chair, Galates. Et quand on marche dans l'esprit, c'est les fruits de l'esprit. Donc, je ne veux pas stigmatiser l'Église catholique, qui d'ailleurs veut dire universel, qui se veut effectivement universel, mais qui se veut être multitude parce que elle embrasse tout le monde. Elle embrasse tout et tout le monde. Nous, on veut être une église de confessants, qui confessons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui confessons notre foi, qui confessons que Jésus a un rôle important dans notre vie et que sa parole est importante. Voyez-vous, c'est ça qui est important. Et quand on est confessant, quand on croit que la parole de Dieu est vraie, eh bien, on ne peut pas agir avec les femmes comme ça a été fait dans l'Église depuis 2000 ans. Ce n'est pas possible. Parce que ça contredit la Bible. Voyez-vous, là, la théologie est importante, parce que la théologie met l'accent sur les doctrines, sur ce qui est important à croire dans la Bible, qui est très vaste, hein, vous le reconnaîtrez, qui est très important. Qu'est-ce qu'elle dit sur la conception de la femme? Il y a un verset fondateur, il faut chercher les versets de principe, dans Galates. Qu'est-ce que Paul dit dans Galates? Il dit, en Christ, il n'y a plus ni... Ah, vous le connaissez. Ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ça veut dire quoi, ce verset fondateur? Est-ce que vous croyez qu'il est inspiré de Dieu, comme les autres versets? Donc, on ne peut pas être plus clair. En Christ, il n'y a plus ni... Ok, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sujet-là. Ni homme, ni femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a égalité. Vous êtes d'accord? Il ne peut pas y avoir domination. Quand Paul dans Éphésiens dit que la femme soit soumise à son mari, on ne cite jamais le verset précédent qui dit quoi? Soyez? Non? Non, c'est pas ça que c'est dit. Le verset précédent, le verset 20. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voyez-vous, quand on prend la Bible hors de son contexte, c'est un prétexte pour dire ce qu'on a envie de justifier dans la civilisation dans laquelle on est. Quand on prend la Bible dans toute sa dimension et qu'on ne prend pas un prétexte, on est obligé d'être honnête avec ce que dit le texte. Le texte dit « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Et ensuite, après, il prend un exemple d'un couple. Mais c'est vrai aussi dans l'Église, c'est vrai dans n'importe quel groupe, c'est vrai dans n'importe quelle association. Il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ensuite, après, il dit... Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue quand on était invité chez Julie, avec sa belle-sœur, ta belle-sœur, qui est prof de... elle est décédée. Elle était prof d'université à 50 ans en Yvelines, je ne sais plus dans quoi. Et elle m'a... Pardon ? Démographie, ah bon. Je ne savais pas. Elle m'attaquait bien en tête quand on est venu chez Julie, là, à manger. Elle m'en voulait. Elle dit, ouais, j'en ai marre. Dans tous les mariages, on lit ce verset, « Femme, soyez soumise à votre mari ». Elle était démontée là-dessus. Je dis, ah bon, madame, vous avez lu la suite, là ? Le rôle du mari, c'est qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il doit se sacrifier pour elle. Elle dit, ah oui, j'avais jamais vu ça. Je dis, mais attendez, c'est la Bible. Hein. Vous citez la Bible, moi je vous cite la Bible. Et là, paf, d'un seul coup, comme une crêpe, ça n'avait plus, voilà, on a changé de sujet, c'était très cool, c'était bien, c'était, voilà, plus rien à voir. Voyez-vous, quand on regarde un verset, soit qu'il est proclamé par des gens qui veulent faire passer leur message, eh ben, on sort du contexte et on est, bien sûr, on est dans la Bible. Mais vous savez, quand vous voyez des gens, des voyants, souvent les chrétiens me disent « Oui, mais ils ont la Bible. » Ben oui, ils font de la magie sur de la Bible. Avec la Bible, vous pouvez, c'est un livre comme un autre, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais quand vous le prenez comme la parole de Dieu, vous écoutez attentivement ce qu'il dit. Donc regardons ce qu'il dit sur la femme. Pour revenir à l'Église catholique romaine, comme c'est une Église de multitude, il est obligé... dans sa propre Église, d'accepter tout ce qui se passe dans la multitude. Ce qu'on appelle ça des syncrétismes avec la culture, avec le pape, il a dit, bah, en Haïti, le vaudou, c'est très bien, voilà, bon, donc on bénit tout ça. Donc on ne fait plus de différence entre la culture et le christianisme tel qu'il est enseigné dans la parole. Ensuite, après, eh bien, on avale tout et on unit les contraires. Moi, j'étais dans l'Église catholique, mais j'avoue qu'il y a des choses que je n'ai pas compris. Hein. Il n'y a que maintenant que je commence à les comprendre, 50 ans après. Par exemple, l'histoire des Vierges Noires, je n'ai pas compris ce que c'était. Il y en a... Le plus au monde, c'est en France, hein, plus qu'en Pologne. Hein. Je ne sais pas combien il y en a, Vierges Noires. Je dis, c'est quoi ce truc-là ? Voilà, à quoi ça sert et tout. Et ben, c'est de l'alchimie. Vous voyez ? Donc, on fait de l'alchimie dans l'Église. Waouh ! C'est incroyable, quoi. Et ça, c'est unir les contraires. C'est associer tout et n'importe quoi pour que tout puisse cohabiter dans l'Église. Mais ça, c'est pas la parole de Dieu. Par exemple, dans l'Église, on interdit la prêtrise aux femmes. Vous êtes au courant? Toutes les femmes demandent à certaines d'être prêtres dans l'Église catholique. Ah ben non. Est-ce que c'est biblique, ça? Pourquoi? Pourquoi c'est pas biblique? Pardon? Oui, d'une part, oui, ça c'est une bonne question. Non, c'est une bonne réponse. Ah, tu écoutes bien, ça. Mais il y a un autre justificatif qui justifie que des femmes devraient être prêtres dans l'Église catholique. Alors attention, hein, je ne vais pas me faire tuer après la sortie que des catholiques viennent me dire je fais la rébellion à l'Église catholique. Pourquoi je dis ça? Réforme protestante, Luther, qui affirme une vérité, que nous sommes tous prêtres. Pierre dira, que nous sommes tous prêtres. Dis à ton voisin, tu es prêtre. Tu es prêtre, prêtresse. C'est un peuple de prêtres. C'est ce qui nous a amené la réforme protestante. Faut pas l'oublier. Et c'est ce qui a fait que le Vatican n'était pas du tout content après Luther et les réformateurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis en évidence une nouvelle réalité qui est affirmée que nous sommes tous prêtres. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul grand prêtre, c'est Jésus-Christ. On est dans le domaine spirituel, mais plus dans le domaine temporel où il faut des prêtres, des prêtresses qui font l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc les femmes, comme les hommes, sont prêtres. Alors, voyez-vous les conséquences pratiques ? Là, on est dans le pratique, pratico-pratique. Pratique, il faut être pratique. Il ne faut pas être dans les nuages tout le temps. Ça fait du bien, de temps en temps, d'être dans les nuages. Mais dans la pratique, les femmes sont prêtres comme les hommes. Alors, bien sûr, dans une nation catholique comme la nôtre, on a du mal à imaginer. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre des femmes dans la prêtrise, hein, je ne dis pas ça. Je dis que les catholiques devraient devenir protestants, dans le sens où... Bah oui, non, c'est évident. Je veux dire, moi, je ne suis pas prêtre, là. Okay. Nous sommes tous prêtres. Quand nous louons le Seigneur le matin, nous exerçons la fonction de prêtre. Hello ? Nous sacrifions au Seigneur nos louanges. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? J'ai l'impression que parfois, on est très loin des réalités de la réforme qui fondent notre foi, qui sont simplement des choses qui ont été enfouies depuis 2000 ans, qui, la parole de Dieu, elle a été écrite par la réforme, hein. Elle a été écrite au 1er siècle par les apôtres. Mais le problème, c'est qu'il y a des couches de poussière qui sont passées là-dessus, et du coup, on pense comme les catholiques pensent. Non, les prêtres, ça ne devrait pas exister. D'ailleurs, au niveau sémantique, au niveau... Vous voyez, la parole, c'est des symboles. Hein. Quand je dis un arbre, là, c'est l'arbre que vous voyez, mais le mot arbre n'est pas la réalité. La réalité, c'est quand je le touche. Okay. Donc, tout le langage est symbolique. Ça renvoie à des réalités. Quand on dit on est prêtre, eh bien, on est en réalité ceux qui sacrifient des sacrifices de louange, parce que le sacrifice parfait, il a été fait par Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à rajouter. Il est parfait. Voyez. Donc, nous vivons quelque chose, une réalité symbolique. C'est pour ça que la scène, elle est symbolique. Parce que c'est une mémoire. On ne renouvelle pas le sacrifice de Jésus comme le fait le prêtre. C'est pour ça qu'il peut y avoir que des prêtres qui peuvent sacrifier la messe, puisque c'est un sacrifice qu'on refait à chaque fois quand il y a une messe. Je m'éloigne un petit peu pour revenir à la femme. Donc l'interdiction de la prêtrise aux femmes, c'est une erreur de la part de l'Église catholique, mais voilà, ils sont englués dans leurs erreurs qu'il faut qu'ils justifient. Par exemple, le fait que Marie soit élevée au rang de Théotokos. Ça veut dire quoi, Théotokos ? Théo, c'est Dieu, et Tokos, c'est mère, la mère de Dieu. Imaginez la mère de Dieu. Imaginez le concept. Voyez, ça renvoie à que Dieu a besoin d'une mère. Que Dieu doit être enfanté par une mère. Enfin, vous voyez, l'anthropomorphisme. En fait, c'est les dieux grecs. Tous les dieux grecs, c'est de l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, on projette Jupiter, machin, etc., Minerve et tout, à partir des hommes. Ils ont les mêmes jalousies, ils ont les mêmes défauts que les hommes, quoi. Et ça, on appelle ça des dieux qui vont nous sauver. Qu'on invoque, en tout cas. Et en fait, vous savez très bien ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous le dire, vous le savez. En plus, dire « mais Théotokos », on dit « rédemptrice », et nous rachète. Vous la priez, etc. Alors, vous voyez, vous avez à chaque fois les extrêmes. D'un côté, on écarte la femme, du rôle de prêtre, alors qu'en fait, elle est prêtre comme les hommes. Et de l'autre côté, donc, la femme concrète, on la baisse. Et de l'autre côté, on élève une femme qui n'existe pas, parce que Marie, elle est comme nous, elle est morte, et puis elle attend la résurrection. Et on élève une femme virtuelle, une femme idéale, une femme comme Marie, qu'on appelle Théotokos. Vous voyez, on est dans l'extrême complet entre une réalité concrète qui n'est pas biblique et une réalité virtuelle qui est une invention pure et qu'on va adorer, qu'on va lui apporter des prières, etc. Et en plus, l'enfant Jésus est en dessous, parce que vous savez, c'est toujours l'enfant Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a fait les exploits. Quand vous voyez justement la Vierge Noire, elle est toujours dans le giron de la mère, et c'est l'enfant Jésus. Les femmes concrètes sont abaissées et la femme symbolique, elle est élevée au rang de déesse au nom de la Bible. Alors que la Bible dit que tous sont prêtres devant Dieu, qu'il n'y a plus ni homme ni femme, etc. La parole de Dieu n'unit pas les contraires ou les rôles, elle précise bien chaque chose qui est à sa place. Elle est claire, elle est précise. Et elle concerne aussi le rôle du Saint-Esprit. Regardez, Michel, qui a fait 25 ans la culture biblique à l'école Notre-Dame, très souvent, quand elle abordait la question de l'enseignement de la Trinité, elle posait la question aux élèves, alors c'est quoi la Trinité ? Beaucoup, pas tous, répondaient, c'est le Père, Marie et Jésus. Ça, c'est la Trinité.
Ah oui ?
Voilà. Je veux dire, c'est le résultat de l'enseignement catholique, quoi. Et le Saint-Esprit est substitué par Marie. Hello ? Voilà. Donc Marie prend la place du Saint-Esprit. Puisque la Trinité, c'est le Père, hein, Marie, Théotokos, c'est la Mère, et Jésus. C'est à ça qu'on arrive. Okay. Donc vous voyez, j'invente rien, on est dans du concret là, de l'enseignement. Donc la Trinité, c'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est Marie. Alors qu'est-ce que dit la Bible ? La Bible, dans le Shema Israël, c'est le fondement de la foi biblique, de la foi d'Israël, qui est la même foi que nous. L'Ancien et le Nouveau Testament ne changent rien dans la révélation de Dieu à Moïse. A dit l'Éternel ton Dieu est... L'Éternel, ton Dieu, est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ça, c'est le fondement. Il est un. Il y a une manifestation de Dieu dans les trois dimensions de la Trinité, mais l'Éternel est un. Et il n'est pas sexué. Il n'est pas homme, femme, etc., père, mère, etc. Il est père dans la notion de source. Il est source de toute chose, voyez-vous ? En tant que père. Il est créateur, il est initiateur. C'est ça que veut dire père. C'est pas père au sens de sexuel. D'ailleurs, Jésus dira à ses disciples qu'il n'y a pas de sexe dans le ciel. Okay. Donc ne cherchons pas à midi à 14h, c'est simplement le père en termes de source, d'initiateur, de celui qui prend l'initiative. De Jésus, qui est fils au sens de cette relation qui est imagée par le fils. C'est une relation filiale, une relation très très proche entre le Père et Jésus, qui est missionné pour le salut, parce que c'est dans le cadre du plan de rédemption. La Bible est écrite dans le cadre du plan de rédemption. On ne révèle pas tout ce qui est Dieu. On le découvrira dans l'éternité, tout ce qui est Dieu. Mais la Bible, c'est le plan de rédemption, celui qui nous montre comment Dieu a sauvé l'humanité. Comment l'homme est tombé, l'homme et la femme sont tombés dans le péché, et comment il les relève pour recréer une nouvelle terre et de nouveaux cieux à la fin dans l'Apocalypse. En fait, quand on comprend bien qui est Dieu, on comprend qui nous sommes. Notre identité ne peut se comprendre que lorsque nous comprenons Dieu. Et c'est ça le mystère. Quand Paul parle de mystère, le mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas a priori. Il faut chercher la signification. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et l'Église. Qui est capable de comprendre le mystère de Christ et de l'Église ? C'est simplement l'amour de Dieu qui a fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Jésus, nous avons la vie éternelle. Et nous sommes dans ce mystère qui s'éclaire un petit peu, nous sommes tous, hommes et femmes, parce qu'il n'y en a plus ni hommes ni femmes, nous sommes épouses. Nous sommes dans le rôle d'épouse. Et d'ailleurs, nous attendons l'époux. La fin n'est pas encore là. Quand nous serons réunis avec l'époux qui est parti auprès du Père, qui nous attend, eh bien là, nous serons aux noces de l'agneau. Donc nous sommes tous époux. Nous sommes tous épouses, hommes, femmes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les livres de Léon Payne qui expliquent extrêmement bien toutes ces choses-là, qui dit que la femme est réponse et l'homme est initiateur. C'est pour ça que l'homme et la femme ont un rôle. Le rôle n'est pas égal. La personne est égale. Hommes, femmes sont égaux devant Dieu. comme Père, Fils, Saint-Esprit sont égaux, dans le sens où sont le fondement de la divinité. Mais c'est Dieu qui est important. Ici, ce qui est important, c'est le couple. C'est la corde à trois bras, c'est ce que je disais hier. C'est l'homme, la femme et Jésus. Sans Jésus, sans enlever Jésus, l'homme et la femme, c'est un couple, mais ordinaire, normal, séculier, dans le monde, qui cherche désespérément un sens à la vie. Donc toute la vie, il va chercher le sens. Mais tant qu'il ne trouve pas Jésus, il n'est pas dans l'identité que Dieu a prévue. Que Dieu a prévue. Moi, j'ai eu la chance d'être ingénieur en aéronautique pour faire les satellites et les fusées. J'aurais pu être ingénieur mécanique. Et quand un ingénieur prévoit quelque chose, par exemple les voitures diesel, vous achetez une voiture diesel, vous mettez de l'essence, vous avez des problèmes. Parce qu'il n'est pas prévu pour ça. Okay. Donc il vaut mieux respecter ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Donc Dieu a prévu que le couple soit associé à Jésus, qui lui donne sens, donne direction, donne le côté spirituel qui permet au couple bien de vivre une continuité, parce qu'après la mort, il y a une continuité. Le christianisme qui a écarté la femme l'a sous-estimé pour imposer la souveraineté de l'homme, ça c'est charnel, y compris dans l'Église. Voyez-vous, on est dans la chair. On est dans la chair, on n'est pas dans l'esprit. Parce que l'esprit dit autre chose. L'esprit enseigne autre chose. Moi j'étais étonné, déjà qu'en France, les femmes aient le droit de vote le plus tard possible en Europe déjà. Alors ça a commencé aux États-Unis. Il y a quelque chose là dans la réforme. Vous voyez, déjà en Allemagne, avec Luther, les femmes avaient déjà plus de liberté dans l'Église. Que dans le catholicisme, voilà. Et ensuite, après aux États-Unis encore plus, parce que c'est les évangéliques qui sont allés aux États-Unis et donc qui ont vécu, non pas en réaction, mais dans la compréhension de la parole, la liberté de la femme. Mais en Europe, ce qui m'a frappé, alors Sarah qui est historienne, elle sait tout ça par cœur. Ce qui m'a frappé, c'est que ce n'est pas les chrétiens qui ont libéré la femme par compréhension de la Bible, c'est les guerres. C'est incroyable ça. Que Dieu a dû utiliser des guerres, 14-18 et 39-45, pour permettre à la femme d'avoir la liberté qu'elle a aujourd'hui. C'est quand même incroyable. Comme quoi Dieu tire des choses du mal et tire du bien. Capable de faire ça. Mais quand même, arriver à ça. Alors pourquoi ça s'est passé comme ça historiquement? Simplement parce que tous les hommes étaient partis à la guerre et il y a 10% des hommes qui ont été décimés et que les femmes ont pris le relais. Ils sont devenus factrices, ils sont allés dans les usines pour faire marcher. Il fallait au front, il fallait des munitions, etc. C'est les femmes qui ont commencé à faire tout ça, etc. Puis quand la guerre est finie, on a vu qu'ils se débrouillaient bien, quoi. Ouais. Mais c'est quand même un paradoxe dans des sociétés chrétiennes d'en arriver là. Ça montre à quel point marcher dans la chair, marcher dans la culture, marcher dans l'hérédité amène à croire qu'on est chrétien, enfin chrétien au sens de compréhension de la Bible, hein, sur des sujets, et on est complètement à côté de la plaque. C'est en 1914 à 1917 que les femmes en France s'affirment dans la société. Le problème, comme toujours quand c'est en réaction, quand ça ne vient pas de Dieu, on arrive à une exagération. Ça veut dire que on a assisté à une masculinisation des femmes. Donc les femmes perdent leur vocation féminine. Et entre les deux guerres, alors je fais une étude très rapide, il faudrait être plus nuancé, mais entre les deux guerres, entre 1917 et 1939, eh bien la femme devient garçonne. C'est toute cette les années folles, voilà, où la femme est garçonne, voilà. Donc, vous voyez, elle n'est plus femme, elle devient garçonne. Pour exister, il faut qu'elle ressemble à un homme ou un garçon. Hein. C'est là que les femmes ont le droit de choisir leur conjoint. Ouais, c'est quand même une révolution. Alors que quand on prépare les jeunes au mariage, hein, ce sera le cas d'Elsa et Kerving, on prend le fondement du mariage qui est quoi? C'est quel, hein, David, il se marre là, parce qu'il connaît toutes les réponses. Le fondement biblique qu'on prend comme exemple du mariage, c'est, ça s'est passé à quel moment? C'est avec qui? C'est pas avec Abraham, mais c'est avec son fils. Avec Isaac et Rebecca. C'est quand même le fils d'Abraham qui fonde le mariage. Et là, ce qui est incroyable, quand vous lisez ce texte, qui est quand même très long, c'est le texte qui vous scotche. Tout le monde, quand on fait lire ça, ils sont scotchés sur les chaises. C'est incroyable. Et d'une modernité absolument fascinante. Fascinante. Parce que la femme, Rebecca, les parents demandent son avis. Et c'est elle qui décide. C'est pas les parents. C'est quand même étonnant. OK ? Ça, c'est dans la Bible. C'est pas dans les cultures. C'est dans la Bible. OK. Et vous voyez, il a fallu attendre l'entre-deux-guerres pour que les femmes en France obtiennent le droit de choisir leur conjoint. Sinon, ils étaient imposés pour différentes raisons. Je n'entrerai pas là-dedans. En 1946, après la guerre, ils obtiennent le droit de vote. C'est-à-dire qu'elles sont considérées comme citoyennes. Ça veut dire que même la Révolution française, où Robespierre et tout le monde a pris comme exemple la Grèce. Bah oui, la Grèce, c'est le modèle de la République grecque. C'est pas dans la Bible. Hein. Et qui est-ce qui était citoyen chez les Grecs? Les femmes étaient citoyennes? Ah non. C'est un modèle, mais les femmes n'étaient pas citoyennes. C'est pour ça qu'en France, les femmes n'ont pas obtenu le droit de voter, de donner leur avis en politique. Parce que en Grèce, les esclaves et les femmes, eh bien, ils n'étaient pas admis comme citoyennes. C'était des personnes à la maison qui faisaient ce qu'il fallait faire voilà, pour faire fonctionner les maisons. Mais c'est les hommes, et encore pas tous, il fallait qu'ils soient libres pour devenir citoyens. Eh bien, la France a reproduit ça. Sans se rendre compte qu'on est chrétien, vous voyez, et qu'on devrait suivre la Bible et pas la Grèce antique. Et ce n'est qu'en 1946 que les femmes ont obtenu d'être citoyennes. Pardon ? Bon, moi j'ai lu 46 ce matin, mais bon, je peux me tromper. De toute façon, moi je m'en fiche, c'est pas une année près. Mais le principe de que les femmes soient reconnues comme étant capable de donner un avis dans la société, c'est quand même très, très tardif, alors qu'on est une nation chrétienne, qui est très chrétienne, puisque la France, c'est la fille aînée de l'Église, elle était reconnue comme étant très chrétienne, des droits très chrétiens. Vous voyez comme quoi on est très loin de la parole de Dieu, même quand on s'appelle très chrétien. Conclusion. Les femmes sont sous la tutelle des hommes et la considèrent comme des esclaves avec des dots. Les dots, c'est lié justement à cette transaction qu'on fait pour compenser des préjudices ou autres. Donc toute cette histoire est dans la mémoire collective des femmes. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi, les femmes dans l'Église aujourd'hui, vous voyez, c'est très récent. C'est pour ça que je voulais vous montrer que l'histoire est récente. On ne remonte pas à 2000 ans, on remonte en 46 au plus tard, 44, peu importe. C'est la mémoire collective des femmes de se dévaloriser. Et je voudrais vous dire, vous les femmes qui êtes dans l'Église, moi je considère que vous avez la même valeur que les hommes, la même valeur. Mais quand on réagit, c'est un peu le cas dans les milieux évangéliques aujourd'hui, où les femmes, voilà, alors, on en surfait, on en surjoue, etc. Et là, c'est une catastrophe. Hein ? Bah oui. C'est une catastrophe. Vous voyez ? Quand on n'a pas une identité qui est comprise bibliquement, chacun a une place. Et ce n'est pas en réagissant ou en réclamant. D'ailleurs, la doxologie, ça veut dire rendre gloire à Dieu, que je lis pratiquement à toutes les saintes scènes. Cette doxologie, c'est un chant que les premiers chrétiens chantaient tous les dimanches au culte. Et il dit que Jésus n'a pas réclamé, alors qu'il était dû réclamer d'être l'égal de Dieu. Ça, c'est le principe même de celui qui est humble. Celui qui réclame, si la femme réclame son statut d'être égal, réclame son statut d'être ceci, d'être cela, c'est déjà foutu. On est déjà du mauvais côté de la barrière. On ne peut que aller dans le mauvais sens. Voyez. On n'a pas à réclamer, on a à être. On doit être. C'est pour ça que dans l'Église, il faut qu'il y ait la paix. Parce que quand il n'y a pas la paix, on va réclamer. On va revendiquer. On va syndicaliser. Vous voyez ? Non. Dans l'Église, chacun est au même niveau. Chacun. Tous, nous sommes serviteurs. Tous. Et moi en premier. Et je suis votre serviteur. Tant que ça, ce n'est pas compris, l'Église ne peut pas marcher. Que ce soit homme, femme, que ce soit un tel ou un tel, etc. Il n'y a qu'un seul chef, c'est Jésus-Christ. Par contre, il y a des dons. Il y a des dons. Il y a des ministères. Il y a des autorités. Des choses comme ça. C'est tout à fait autre chose. Et comme on amène nos pensées dans l'Église du monde, ben regardez ce que ça donne, l'Église catholique, voilà, elle n'a pas réussi à libérer les femmes jusqu'en 1946. C'est les guerres qui ont dû les libérer. Pour leur donner le statut biblique. Voyez-vous où on en arrive. Alors, si on cherche à comprendre le mystère qu'on a lu tout à l'heure, le mystère de Éphésiens 5, 32, ce mystère se rapporte au couple Christ, l'Église, époux, épouse. Et tout ce passage qu'on a lu, que Rémi a lu hier, parle justement du couple. Et l'enseignement, c'est sur le rôle et la place de la femme et la place du mari. Et là, on ne peut pas être plus clair que ce texte. On ne peut pas l'interpréter autrement. Le mari doit avoir la position du Christ, qui a aimé l'Église au point de sacrifier sa vie, de donner sa vie pour mourir pour elle. Eh bien, c'est cette radicalité de l'enseignement sur le mariage. L'homme, eh bien, l'homme doit se comporter comme Christ. Alors qu'il n'y arrive pas, je suis d'accord avec vous, je suis le premier à le reconnaître. Mais c'est l'exigence pour que le couple marche. C'est l'exigence de la parole de Dieu. Et la femme doit être soumise, non pas... c'est pas marqué d'être un paillasson. Hein. La soumission, il faut bien comprendre... que la soumission est quelque chose de dynamique, on le verra tout à l'heure, enfin plus tard dans la Trinité. Le Père est soumis au Fils, le Fils est soumis au Saint-Esprit, le Saint-Esprit est soumis au Père, etc. Et c'est une intersoumission réciproque. Et c'est pour ça qu'avant d'enseigner sur cela, l'apôtre Paul dit dans le verset 20, mais le moine qui a fait le truc là, enfin je ne sais pas si c'est le moine là, le moine c'est les versets, mais dans toutes vos Bibles c'est marqué « la famille chrétienne ». Et voilà, donc ça coupe le verset 21 et 22. Le verset 21, précédent, il dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Soumettez-vous les uns aux autres. Donc la soumission, elle est réciproque. Elle n'est pas dans un sens. L'homme doit être soumis à la femme, et la femme doit être soumise. Sauf qu'elle représente le modèle de l'Église. C'est juste une modélisation, c'est un symbole. Mais la soumission, elle est interactive. Ça veut dire quoi, ça ? Je vous renvoie Fabiano qui nous a apporté la communication. Là, on est en plein dans la communication. S'il n'y a pas de communication dans le couple, ça ne peut pas marcher. Ah, j'ai raison. Pourquoi l'homme, il a raison ? Parce qu'il a des muscles. Alors, il tape sur la femme, il prend de l'alcool, ça va plus vite, etc. Voilà. C'est ça le modèle biblique ? Est-ce que Jésus a tapé sur l'épouse ? Il a donné sa vie. Voyez-vous ? Donc la force naturelle a toujours été utilisée pour dominer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent conduire des Porsche et puis un homme qui conduit des chevaux. Je ne vous dis pas, quand il démarre, voilà, celui qui va gagner. Mais voilà, c'est parce que la technologie permet à la femme d'être plus forte. Mais avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas des Porsche. Donc, puis tu tais, puis voilà. Ouais, c'est ça. Donc on est dans la chair. On n'est pas dans l'esprit. Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus s'est soumis à son Père. Il a montré un modèle de soumission, mais d'autorité. Les gens disaient, mais personne ne parle comme cet homme. Personne ne fait les choses comme cet homme. C'est incroyable. Il amenait le respect. Et ça, c'est le rôle de l'homme. Il doit amener le respect. Pas dans la force. Jamais dans la force. Jamais. Dis à ton voisin, jamais. Jamais dans la force. C'est là que les hommes doivent se réfréner en disant « Ah, je pars dans la force. » C'est pas biblique. Non. Parce qu'on est tous égaux, au même niveau. Au même niveau. Et donc la communication est importante. Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu as dit? Est-ce que tu as bien entendu ce que j'ai dit? Ah oui, là, c'est un effort. Eh oui, c'est un effort. Il faut écouter. Il faut développer l'écoute. Il faut développer... voilà, et ça, ça nous fait mourir. C'est pour ça qu'on dit, il y a trois personnes qui veulent notre mort. Hein, c'est Dieu, c'est le diable, et c'est notre conjoint. Eh oui. Mais c'est bien. Vous saviez pas ça? Oui. Parce qu'il faut mourir à soi-même. Jésus a dit, Matthieu 16, verset 24, dit « Celui qui veut me suivre... » Est-ce qu'il y en a qui veulent suivre Jésus ici? Ben voilà, serait-ce à nous. « Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même. » C'est la base de la vie chrétienne. Il doit renoncer à lui-même. Non pas renoncer à son identité, renoncer à lui-même, à son ego, à son envie de taper sur la table, à son envie de montrer sa force, à son envie de montrer qu'il a raison, que ce soit la femme ou l'homme. Hein. La femme aussi, elle peut être très, très convaincante dans sa façon d'être. Voilà. Mais c'est une intersoumission réciproque. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Allô? Et c'est dans ce contexte-là qu'il n'y a pas de domination de l'homme sur la femme, ou de la femme sur l'homme par des moyens de séduction, je n'en parle pas. Bon, parce que chacun a sa capacité de dominer, mais une intersoumission et une collaboration, une coopération. La Bible dit, et là on arrive sur l'enseignement du Saint-Esprit que j'avais prévu avant de parler sur la femme, mais en fait il y a une similitude. Il y a une similitude, j'ai été frappé de la similitude, entre le fonctionnement du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui bien sûr est le fondement de la divinité, et c'est comme ça que fonctionne la divinité. Eh bien, l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu. Et donc ils ont le même, ils sont supposés avoir le même fonctionnement. Le même fonctionnement. Et quelque part, la femme devrait fonctionner comme le Saint-Esprit, l'homme comme Jésus, qui est la tête, et du coup le mystère s'éclaircit. Ce mystère dont parle Paul, pour moi, s'est éclairci de cette manière-là. Donc ce qui est important, et ce sera le message de dimanche prochain, c'est bien comprendre qui est le Saint-Esprit. Le problème, c'est que le Saint-Esprit... On en fait un petit peu tout ce qu'on veut, les charismatiques, voilà, et ils utilisent le Saint-Esprit, voilà. Et c'est dommage, parce que quand on comprend bien qui est le Saint-Esprit, et là, il faut fouiller un petit peu, parce que Jésus, c'est facile, les quatre évangiles parlent que de Jésus. Mais si vous regardez bien, vous voyez que le Saint-Esprit est toujours derrière. Et Jean-Baptiste, d'ailleurs, a dit, « Celui qui vient après moi, Jésus. » C'est le seul, c'est celui qui est capable de baptiser par le feu, par l'eau et par le feu. Le baptême du feu, c'est le Saint-Esprit. Le baptême du feu, c'est celui qu'on reçoit. Je ne sais pas quelle est votre expérience du Seigneur. Alors là, c'est Christian Schwartz qui explique les expériences de Dieu. L'expérience de Dieu qui est triple, hein. Père, Fils, Saint-Esprit. Il faut expérimenter Dieu dans ces trois dimensions qu'on sépare rationnellement, mais sont inséparables. On peut les distinguer, mais pas les séparer. Le Père créateur, le Fils qui envoie mission. Il a dit, je vous envoie en mission. Apportez l'évangile. Bonne nouvelle. Et le Saint-Esprit qui est la puissance de vie, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit vient à la Pentecôte. Jésus, il part à Pâques. Enfin, Pâques et puis l'Ascension. Et le Saint-Esprit, il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Parce qu'il parlera de moi, il me glorifiera. Voyez-vous, la glorification, c'est chacun glorifie l'autre. On n'est pas un seul qui glorifie. Le Saint-Esprit glorifie le Père. Le Père glorifie le Fils, Le Fils glorifie le Père. Et vous, nous avons chanté beaucoup sur la gloire ce matin. Je pense que ce n'est pas le hasard. Ça va dans l'enseignement. C'est que nous devons non pas glorifier la femme, hein, on n'est pas des dieux, mais honorer la femme. La femme doit honorer le mari, doit respecter le mari. Vous voyez, c'est dans un respect mutuel, dans une intersoumission mutuelle, c'est dans une compréhension de l'autorité de chacun. Chacun a une autorité, c'est-à-dire une place spéciale qu'il doit tenir, qu'il doit faire respecter. Et alors les choses peuvent marcher. Voyez-vous, on a eu trop peu de compréhension sur le couple, sur la famille, sur ce que doit être le rôle de chacun dans la société. C'est pour ça que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin, heureusement, le ministère de la Maison d'Élie, il permet de raccommoder les morceaux. Mais ce qu'on voudrait, c'est pour les jeunes qui sont sous notre autorité, ils puissent vivre ça. Ils puissent vivre cette dimension du rôle de chacun, tel que Dieu l'a prévu. Et alors là, ils peuvent devenir des modèles dans le monde, non pas en essayant de forcer, mais simplement un modèle de vie. Comment ça devrait marcher ? Le problème, je l'ai cité hier, dans cette troisième dimension, hein, première dimension, c'est la hiérarchie, c'est le sacré, la sacralité. Hein. La deuxième dimension, c'est la législation, c'est les lois que les parents doivent faire pour créer cette nouvelle solidarité qui est la nouvelle famille. Et ensuite, la socialité. La socialité, c'est les conséquences des lois que les parents ont adoptées, qu'ont créées, et le créent même sans vouloir les créer. Hein. Alors, c'est encore pire quand elles se créent toutes seules, les lois. Alors là, c'est du n'importe quoi, parce que ça peut changer comme en géométrie variable. Suivant les trucs, on change les lois. Mais normalement, un couple doit créer ses lois, qui sont propres. L'homme et la femme, ensemble, doivent discuter comment notre couple va fonctionner, comment notre famille va fonctionner. Et avant que viennent les enfants, si possible. Parce qu'une fois que les enfants sont là, ça crée des lobbies. Hein, parce que l'enfant sur la mer, je ne vous dis pas, vu l'attachement qu'il y a, ce n'est pas forcément très, très objectif. Donc le mieux, c'est de les discuter avant. Comment on va gérer? Et ensuite, après, on voit les fruits. Le problème, c'est que parfois, c'est 18 ans après qu'on voit les fruits. Et quand ils ne sont pas bons, on ne peut plus en arrière, sauf avec le ministère de la Maison d'Élie. Et ça, c'est dommage. Et on voudrait que les familles nouvelles puissent créer tel que Dieu a conçu les choses. Et à ce moment-là, les enfants peuvent vivre le mieux possible dans un modèle qui est un modèle qui ressemble à celui que Dieu a voulu et qui modélise en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. Et alors là, les lois, on n'a pas besoin de regretter ces lois, parce qu'elles produisent du fruit, et les enfants, on le voit. Il y avait Josué et Daniel, qui, un certain temps, venait dans l'église ici. C'était un homme de Dieu, caractère, un Indien, à Madras. Son père a connu le réveil, et vous savez, ces extrêmes aussi en Inde, hein, avec les castes et tout. Et puis, très souvent, il était attaqué par les communistes. Il était virulent. Il tuait carrément les gens. Et comme il avait une église assez importante, près de 1000 assistants en général, quand les communistes venaient, ils commençaient à chahuter, une vingtaine, et ils sentaient que la pression montait et qu'à un moment donné, ils passaient à l'acte. Hein. Et il arrêtait la réunion, comme là. On dirait, ceux qui sont ressuscités, est-ce que vous pouvez donner un témoignage? Il y a des ressuscités qui se levaient, qui donnaient un témoignage. Et alors là, communiste, c'était fini. Et Josué et Daniel, eh bien, nous parlaient de sa famille, de sa façon, maintenant c'est son fils qui a repris, etc., la suite de l'Église. Et c'est un homme qui était un homme de la parole. Et il voyait les péchés des gens quand ils venaient. Ils pouvaient vous dire quel est le péché que vous faites en ce moment. Ah oui, il était voyant. Il avait... voilà. Michel pouvait lui dire, quand elle traduisait, c'était chaud. Hein, et voyait les choses. Mais il le faisait toujours en esprit d'amour. Et il encourageait les personnes à se repentir, à venir à Dieu, à changer de comportement, à changer de situation. Il avait des lois pour sa famille qui produisaient du fruit. Et je voudrais que toutes les lois que vous produisez dans vos familles portent du fruit, dont vous n'avez pas à rougir, dont vous n'avez pas à vous repentir, parce que vos enfants... Et il disait, les enfants sont les haut-parleurs des parents. C'est embêtant, hein, parce que, vous savez, les haut-parleurs, vous ne pouvez pas l'éteindre. Hein. Voilà. Et quand vous entendez les enfants, vous savez ce qui se passe dans le couple. Donc, faites attention, parce que c'est une réalité. Hein. C'est lui qui nous a enseigné ça. Les enfants sont les haut-parleurs des parents, du couple. Et il vaut mieux que le haut-parleur, eh bien, il continue à envoyer la bonne nouvelle, hein, plutôt que de dire il y a tel et tel problème dans le couple, etc. Parce que les enfants parlent assez facilement, surtout avec leurs copains et leurs copines. Et après le témoignage, bonjour. Donc je souhaite, c'est mon souhait. On est une église, nous sommes là pour la famille, pour établir des couples, des familles, selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Et ce modèle-là, il se retrouve, c'est ce mystère qui est éclairé par le fonctionnement du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la prochaine fois, on verra un peu plus l'enseignement sur le Saint-Esprit. Et vous comprendrez un peu mieux le rôle de la femme, qui est un rôle plutôt, attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein. Les catholiques disent que Marie voilà, remplace le Saint-Esprit, on n'en est pas là. Hein. Mais vous comprendrez mieux le rôle de la femme, comme vous comprendrez bien le rôle du Saint-Esprit. Il est interconnecté avec Jésus, il travaille en collaboration, en coopération avec Jésus, c'est le Saint-Esprit, et c'est par le Saint-Esprit que Jésus pouvait faire les miracles. C'est par le Saint-Esprit qu'il a pu envoyer à la Pentecôte le feu sur les apôtres qui ont été témoins, etc., etc. On verra ça la prochaine fois. Donc que la femme puisse avoir la place. Vous voyez, je termine là-dessus. Ce qui m'a toujours frappé, c'est le discours de Paul à l'Areopage. Il a prêché, alors beaucoup de pasteurs disent « Ouais, il s'est planté, voilà, il n'aurait pas dû avoir ce discours-là. Athènes, parce qu'après, à Éphèse, il y a eu voilà, une école de disciples pendant 2 ans qui était florissante, il y a des miracles, des prodiges, etc. » Mais Athènes, c'était des discoureurs, c'était des philosophes, c'était des intellectuels qui étaient à Athènes. Et on voit qu'il commence à parler de Jésus et de sa résurrection. Et ce qui est étonnant, c'est que les discoureurs l'ont laissé parler pendant un certain temps, à peu près ça dans la Bible. Et puis à un moment donné, ils ont dit stop, puis arrête là. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que au début, Jésus parlait, Paul parlait de Jésus et de la résurrection. En grec, c'est Anastasis. Et ceux qui écoutaient, ils pensaient que c'était sa femme, sa paraître. C'est-à-dire, les dieux sont toujours hommes et femmes, hein, en Grèce. Hein, toujours un dieu et puis une déesse, voilà, hommes et femmes. Donc pour eux, ils entendent le discours de Paul, ils ont dit « Ah, ça y est, c'est nouveau. Mais vas-y, parle-nous. Là, on a envie de... » Ils voulaient découvrir tous les dieux et les déesses de l'Orient. Et donc, ils ont laissé parler Paul. Ils parlaient d'Anastasis, de la résurrection, etc. Bon, voilà, ils écoutaient. Et à un moment donné, ça s'arrête. Et quand est-ce que ça s'arrête? Il dit « Maintenant, ça suffit, là. Tu t'arrêtes et tu dégages. » C'est quand il parle de la résurrection des corps. La résurrection des corps. Que nous aussi... on allait ressusciter, notre corps va ressusciter. Ça fait partie de notre credo. Hein. Nous allons ressusciter comme Jésus a ressuscité au dernier jour. Et là, ils ont compris qu'on allait avoir un nouveau corps. Alors là, c'est une horreur pour les Grecs. Le corps, c'est une malédiction totale. C'est ce qui nous empêche d'être divin, d'être libre, etc. Vous voyez. Donc vous voyez, ça a heurté leur conception de l'homme et de la femme. Leur conception de l'identité. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un paradigme, une identité, une connaissance de notre identité claire, nette, précise. Et du coup, chacun peut être à sa place. Le Saint-Esprit est à sa place, Jésus est à sa place. Ils ne se revendiquaient pas l'un l'autre, mais ils jouaient le rôle, si on peut dire, que dans la divinité était prévu. C'est ainsi que devrait fonctionner l'Église, et que je sais que déjà... on fonctionne comme ça, mais j'aimerais que vous, en tant que femme, vous soyez convaincue que ce n'est pas une autorisation voilà, qu'on donne spécialement au Bergenville, voilà, etc. Mais bon, c'est assez fort, hein, parce que là, il n'y a plus aucun gitan qui vient dans l'église. Pourquoi ? Parce que les gitans, ils se passent le mot. Hein. Et plusieurs fois, il y avait des gitans qui venaient ici. Et j'ai vu que quand Yves, par exemple, invitait des femmes à la Sainte-Seine, paf, tout de suite, ça sortait. Hein. Les femmes, non. Il ne restait pas une seconde de plus. Hein. Donc, vous voyez la culture. Hein, la culture, aujourd'hui encore, hein, que la femme n'a aucun droit dans l'Église. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est. Et c'est des chrétiens. C'est des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens souvent extrêmement, qui ont de la foi, etc. Mais ça montre combien notre culture, nos pensées, sont modelées par le monde, sont modelées par ce qui nous entoure. Et nous avons besoin de renouveler notre intelligence. L'apôtre Paul le dit dans Romains, soyez renouvelés dans votre pensée, pour que vous puissiez comprendre le mystère de la foi, la puissance et l'amour de Jésus. Amen. On va prier. C'est un enseignement, je ne l'ai pas apporté de manière académique, je suis désolé. Je pourrais être beaucoup plus systématique dans l'enseignement, mais je voulais vous partager mon cœur. Que dire, vous en tant que femme, vous avez votre place dans l'Église. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte, vous n'avez pas besoin, mais ne cherchez pas à revendiquer cette place, vous l'avez. Parce que dès que vous revendiquez, vous devenez syndicaliste. Et vous voyez ce que ça donne à la SNCF. Hein, même quand il n'y a plus de motif, on continue. Bah oui, non mais c'est ça, le syndicalisme. Bête et méchant. Hein. Donc, soyons dans notre identité, comprendre quelle est la compréhension de ce mystère. Il y a un mystère, mais il peut être résolu quand nous cherchons à laisser la parole de Dieu parler. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu as eu un plan de toute éternité pour l'homme et la femme. Tu l'as développé dans Genèse, mais c'est vrai que. Il est très court ce passage et souvent on ne comprend pas bien. Et là, Paul parle de mystère. Mais Seigneur, ce mystère se résout lorsqu'on regarde à Jésus et à l'Église, lui qui a donné sa vie pour que l'Église puisse exister. Et nous, c'est juste une réponse à cet amour. Seigneur, permets que dans nos couples, dans nos familles, eh bien, l'homme et la femme soient à la place que tu veux et qu'ils puissent, Seigneur, voilà. Manifester ce rôle qui est déchu à chacun et qu'il y ait une intersoumission réciproque, que nous puissions continuer à apprendre cela. Merci aussi pour le ministère de Maison d'Élie qui permet de remettre les choses d'aplomb et même si ça a échoué, on puisse le revivre. Merci aussi pour les jeunes que tu prépares, Seigneur, à cette dimension de couple qui puisse le vivre, non pas en se cachant de quoi que ce soit. Mais en le vivant pleinement, tel que toi tu l'as prévu. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.